Parce que si nous sommes ici, c'est parce que nous sommes au bénéfice de l'œuvre de Jésus. Il a changé beaucoup de vies parmi nous. Il a changé beaucoup de cœurs parmi nous. Il a renversé beaucoup de situations. Et c'est une réalité que nous connaissons. C'est une réalité que nous invitons tous ceux et toutes celles qui ne le connaissent pas à vivre. Jésus-Christ est le Fils de Dieu qui change, qui transforme et qui bouleverse des cœurs. Amen. Voilà, livre des Actes des Apôtres au chapitre 12. Livre des Actes des Apôtres, chapitre 12. Nous lirons à partir du verset 1er. Actes, chapitre 12, verset 1er. Vers ce temps-là, le roi Hérode porta les mains sur quelques membres de l'Église pour les maltraiter et fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit en outre arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la surveillance de 4 escouades, de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre était donc gardé dans la prison, point virgule, sans relâche. La prière montait de l'Église vers Dieu pour lui. Hérode allait le faire comparaître. Cette nuit-là, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici qu'un ange du Seigneur survint et qu'une lumière brilla dans la cellule. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté, puis il dit « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et attache tes sandales ». Et il fit ainsi. L'ange lui dit « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». Pierre sortit et le suivit. Il ne savait pas que l'intervention de l'ange était vraie, mais il pensait avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville. Elle s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange le quitta. Revenu à lui, Pierre dit « Maintenant, je sais vraiment que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Après réflexion, il se rendit à la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où un certain nombre de personnes étaient réunies et priaient. Quand il eut frappé à la porte d'entrée, une servante du nom de Rhode s'approcha pour l'écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était là, devant l'entrée. Amen. Voilà, gloire à Dieu, c'est un texte extraordinaire, c'est un texte fabuleux, digne de l'ère apostolique, mais qui est encore d'actualité, aujourd'hui. Voyez-vous, bien des choses sont d'actualité dans ce texte. Première, c'est que ce passage commence par ces mots « En ce temps, Hérode porta la main sur quelques membres de l'Église pour les malmener et les faire mourir. » En ce temps. Et je crois que si, dans cette période-là, Hérode a été un agent de l'ennemi de nos âmes, pour malmener les membres de l'Église, je crois qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, bien des hommes et bien des femmes sont malmenés, de droite, de gauche. Oh, même sans être chrétien, bien des hommes et bien des femmes sont malmenés par la vie. Bien des hommes et bien des femmes sont brinque-ballés de droite, de gauche. Bien des hommes et bien des femmes sont prisonniers, sont dans des prisons plus ou moins réelles, plus ou moins virtuelles. Peuvent être prisonniers de leur tristesse, peuvent être prisonniers de leurs angoisses, peuvent être prisonniers de leur maladie. Bien des hommes et bien des femmes sont prisonniers de liens qui peuvent être le tabac, qui peuvent être l'alcool, qui peuvent être des pensées impures, des pensées impudiques. Toutes ces choses-là existent encore aujourd'hui et finalement composent le quotidien de bien des hommes et de bien des femmes. Mais ce qui est encourageant lorsque je lis ce texte, c'est que même si Hérode avait formé des plans de faire mourir Pierre, la prière de l'Église, Dieu se servant de la prière de l'Église, va intervenir dans cette situation-là. Et que ce soit, quelle que soit ta vie, quelle que soit ta prison, quelles que soient les parties de ta vie qui sont malmenées, que tu sois enfant de Dieu, que tu sois croyant ou que tu ne le sois pas, il faut bien que tu réalises une chose, c'est que, sans même que tu le saches, l'Église prie. L'Église prie afin que des hommes et des femmes, eh bien, soient délivrés de leur prison. L'Église prie afin que des frères et sœurs tiennent bon dans l'adversité et dans l'épreuve. Et ça, c'est une réalité. Et au-delà de l'Église, la Bible nous dit que Jésus lui-même prie dans le tabernacle céleste, afin que des choses bougent, afin que les lignes bougent, et afin que des chaînes tombent. C'est une réalité. Nous croyons non seulement dans la puissance de la prière, mais nous croyons dans la puissance de la prière lorsqu'elle est orientée en Jésus. Et en Jésus, tout est possible. En Jésus, tout peut bouger. Ces temps de persécution étaient compliqués à vivre. Jacques vient déjà de mourir. Hérode vient de gagner une bataille. Et Pierre, on pourrait dire que humainement parlant, la cabane était sur le chien. Il était fermé à double tour. Personne ne pouvait venir. Pourtant, eh bien, l'Église va se mobiliser. Dans ce texte, on voit plusieurs axes, après cette courte introduction, pour poser les choses. Le premier, c'est que la mort imprévue de Jean a réveillé l'Église. C'est tragique que parfois il faille des électrochocs dans nos vies pour nous réveiller. Combien parmi nous se sont convertis parce que dans leur vie, il y a eu une catastrophe ? Alors que ce n'est pas du tout la volonté de Dieu. Dieu voudrait simplement que les hommes, eh bien, le cherchent d'une manière naturelle sans être plongés au plus profond du péché, au plus profond des difficultés. Mais l'être humain est ainsi fait que parfois il faut comme une catastrophe, comme des difficultés pour réveiller sa conscience. Et n'attends pas d'être dans la difficulté pour réveiller ta conscience. N'attends pas d'être dans la difficulté, n'attends pas que la maladie survienne, n'attends pas que les problèmes familiaux surviennent pour rechercher Jésus ou pour le rechercher à nouveau, pour réveiller ta foi, pour réveiller ta piété, pour réveiller ta communion avec lui. Ce que j'aime dans ce texte, c'est que tout d'un coup, face à cette situation, l'Église va sentir sa responsabilité. Sans relâche, ils vont se mobiliser dans une maison pour prier pour cette situation. Il y a une prise de conscience que finalement, ils sont responsables de Pierre dans la prière et dans la foi. Ils sont responsables, ils prennent conscience que finalement, ils sont responsables de ce qui va advenir à Pierre. Ou non pas qu'eux ont la possibilité de faire bouger les choses, mais qu'eux sont susceptibles d'être des instruments par lesquels celui qui fait bouger les choses, c'est-à-dire Jésus, va intervenir. Il y a cette prise de conscience. Combien d'hommes et combien de femmes avons-nous vu tomber ? Et la question que je pose à l'Église est très simple. Quelle prise de conscience ? Dans la vie de prière. Dans le livre du prophète Ézéchiel, il y a ce passage, Ézéchiel 33, si mes souvenirs sont bons, où Dieu s'adresse à Ézéchiel et lui dit « Je t'ai établi comme sentinelle sur ce pays. Si tu vois le méchant se perdre et que tu ne dis rien, et j'ai envie de dire et que tu ne fais rien, son sang te sera redemandé. Par contre, si tu fais ce que tu dois, alors tu en seras pur. De la même manière, si tu vois le juste se perdre, et que tu fais ce que tu dois, alors tu seras pur de son sang, mais si tu ne le fais pas, alors son sang te sera redemandé. » Je ne sais pas si c'est en pensant à ce texte que finalement l'Église primitive va se réunir et va se poser pour prier pour cette situation. Mais en tout cas, je pense qu'autour de nous, il y a toutes sortes d'électrochocs. qui ont vocation à nous faire mettre à genoux et à déchirer nos cœurs. On ne peut pas contempler ce qui se passe dans notre monde. Et je suis parfois, moi-même, profondément humilié. Parce que finalement, nous ne faisons que contempler les choses. Alors que Dieu, eh bien dans ce texte, au moins, et dans bien d'autres, nous montre que l'Église a la possibilité de faire bouger les lignes. A la possibilité de faire changer les choses. A la possibilité, eh bien, de permettre à des hommes et des femmes de sortir de leur prison. Deuxième chose que je vois dans ce premier point, dans l'attitude de l'Église, c'est qu'ils n'ont pas été découragés par la mort de Jacques. Peut-être que cette situation, n'ont-ils pas prié pour ? On ne sait rien. On ne sait pas ce qui s'est passé. Peut-être qu'il n'y a pas eu la même mobilisation et qu'ils se sont dit « Oh là là, pour Pierre, il faut peut-être qu'on le fasse » ou au contraire, peut-être se sont-ils mobilisés. Mais Jacques est mort également ? Malgré cela, je dirais. Pourtant, ils ne se sont pas découragés. Et ils priaient là, véritablement, pour que Dieu veille sur Pierre. Et on verra un petit peu quelle est la connotation de tout ça. Et mon frère, ma sœur, tu t'es dit, voilà, je me suis tenu dans la prière pour ce cas-là. Je me suis battu pour ce cas-là. Je me suis vraiment investi spirituellement parlant pour ce cas-là. Mais vraiment, eh bien, je veux que tu saches une chose, c'est ne te décourage pas. Ce n'est pas parce que Jacques a pu passer par le fil de l'épée que Pierre y passera. Ce n'est pas parce que Jacques a pu être perdu que Pierre y passera. Ce n'est pas parce que hier la souveraineté de Dieu a voulu que demain ce sera le cas. Il n'y a jamais de fatalité avec Jésus. Il n'y a aucune fatalité avec Jésus. La seule règle qu'il y a, c'est que la prière du juste a une grande efficacité. Et d'ailleurs, quand on lit le texte, on s'aperçoit qu'il n'est pas dit, et quand on voit l'attitude, que ce soit de la servante ou même des apôtres derrière, on a l'impression, lorsque Rode va revenir vers l'église qui est en train de prier, eh bien, ils vont dire « Mais tu es folle, Rode, tu as perdu la tête, c'est pas possible ». Donc, on s'aperçoit que leur prière n'était pas forcément eh bien, que Pierre sorte de prison. C'est moi qui le déduis, ça. Et quand on fait coller ce texte avec ce passage de l'évangile de Luc où Jésus dit à Pierre, je n'ai pas prié eh bien, pour que tu sois sorti de l'épreuve, même si Satan t'a réclamé pour que... Il y a une Opel Astra Bordeaux qui bloque la cour. Merci au propriétaire. Donc, Jésus va dire eh bien, que finalement, la foi, que Jésus priera pour que la foi de Pierre ne défaille pas. Et non pas pour que Pierre soit sorti de l'épreuve. Et je me dis que l'Église primitive était certainement dans la même optique, dans la même mentalité. Frères, mes sœurs, ce qui doit guider nos prières en premier lieu, ce n'est pas que la situation bouge foncièrement, mais c'est que l'âme, les âmes soient sauvées. Que ce soit dans le texte d'Ézéchiel, c'est le sang, c'est l'âme qui est en jeu, c'est le salut de l'homme qui est en jeu. Et ne nous figeons pas sur ce que nos yeux voient, mais sachons que derrière les situations, il y a des cœurs. Il y a des cœurs qui bougent, il y a des cœurs qui sont travaillés, il y a des cœurs qui sont touchés. Et que le but de nos prières, c'est que des hommes et des femmes soient sauvés, quelles que soient les situations. Même s'ils doivent passer parfois par le feu, même s'ils doivent passer parfois par la prison, même s'ils doivent passer parfois par des combats intérieurs, le but de nos prières, c'est que des hommes et des femmes soient sauvés. Bien sûr, nous prions également pour que les situations bougent. Hein ? Mais gardons en filigrane toujours cette réalité. C'est que le but essentiel des prières de l'Église, c'est le salut des âmes. Et c'est la croissance spirituelle des âmes. Et lorsqu'on lit les prières de l'apôtre Paul, d'ailleurs, eh bien, on s'aperçoit qu'elles allaient bien souvent dans ce sens-là. Hein ? prier pour que les Éphésiens soient affermis et vraiment qu'ils soient ancrés dans l'amour et dans la connaissance de Dieu. Pour que les yeux de leur cœur soient illuminés, etc. Donc les prières étaient vraiment fondées sur les besoins spirituels. Je pense, mes frères et sœurs, que la première chose que l'on voit dans ce texte, c'est qu'il y a un électrochoc qui se passe et que l'Église réagit. Et je conclurai cette première partie en disant, mais finalement, est-ce que nous sommes encore capables de réagir ? Alors, si vous me direz, le juste ne craint point les mauvaises nouvelles. Oui. Citation des psaumes. Mais il n'en reste pas moins que ma responsabilité en tant qu'enfant de Dieu, lorsque j'apprends que quelqu'un souffre, est dans la difficulté, ou est en train de partir dans les décors, ce n'est pas de constater d'un air béat en disant c'est dommage. C'est ballot. Mais c'est véritablement de me tenir à genoux et de jouer le rôle du berger. Second point, l'Église sans relâche. Sans relâche. Et la prière, c'est un combat. Pour tous ceux qui prient parmi vous, vous savez qu'on trouve toujours autre chose à faire que prier. Vous voulez vous mettre en prière, de suite vous avez une folle envie irrésistible de faire la vaisselle. Chose qui ne vous arrive jamais en temps normal. Ou alors tout d'un coup vous vous rappelez qu'il faut nettoyer la porte ou alors aspirer la cave qui n'a pas été aspirée depuis 2 siècles. Allez, plus sérieusement, je l'ai dit à plusieurs reprises, mais je le redirai encore un petit peu. C'est que l'ennemi ne lâche pas comme ça sur une prière faite au coin d'un lit. C'est pas parce qu'on dit au nom de Jésus que les choses bougent immédiatement comme ça, totalement. C'est pas parce que l'on passe 5 minutes à prier que forcément les choses vont bouger. C'est pas comme ça que les situations bougent. Sans relâche. Peut-être avait-il monté une chaîne de prières. Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a cette notion de dire qu'il est nécessaire de persévérer. Et dans des combats qu'il peut y avoir dans ta vie, ne te relâche jamais. Ne baisse jamais les mains. À l'instar de Moïse qui était sur sa montagne avec l'ennemi qui était en bas et Josué en train de les combattre, et vous connaissez ce texte. Lorsque Moïse baissait les bras, image très évocatrice, Josué reculait. Mais lorsque Moïse avait les bras élevés, alors c'est l'armée d'Israël qui avançait. Et dans nos prières, il en est ainsi. Dans notre vie de prière, il en est ainsi. Quand nos mains sont levées, alors l'œuvre de Dieu avance autour de nous, mais surtout en nous, on va le voir maintenant. Mais lorsque nous baissons les bras, alors notre foi recule de manière systématique. Nous sommes dans ce combat-là. Et des héros sont tombés faute de prière. Les hommes et les femmes sont tombés faute de prière. Il faut toujours prier lorsque Jésus, pas simplement dans les difficultés, mais on sait que la prière, c'est également le moyen de veiller. Jésus l'associera, veiller et prier afin de ne point tomber en tentation. Veiller, c'est prier et prier, c'est veiller. Il y a un corollaire entre ces deux termes. Vous savez, lorsque quelqu'un chute, on pense que ça vient d'un coup. On pense que le fils prodigue, ça lui est venu comme ça, du jour au lendemain, l'envie de partir de chez le père. Tiens, si je partais de chez le père, allez, hop, je m'en vais, je lui réclame le livret A qu'il a placé pour moi, d'accord ? Je lui demande de vendre quelques bœufs et puis et puis je m'en vais parce que ça m'a pris comme une mouche qui me pique là, je m'en vais. Non, les choses ne se passent jamais comme ça. Mais avant la chute, il y a toujours une chute spirituelle. Avant de quitter la maison du Père, c'est-à-dire la présence de Dieu, il y a toujours des signes avant-coureurs. Ce n'est pas quelque chose qui vient au lendemain, du jour au lendemain, mais le péché commis ou la mauvaise décision prise malencontreusement, plutôt volontairement, la plupart des cas, elle est toujours le corollaire d'un déclin dans la foi. Et l'un des signes, c'est un relâchement dans la prière. C'est extraordinaire d'être en couple. Parce que le mari peut dire à la femme, « Eh, tu te relâches. » La femme peut dire au mari, « Eh, qu'est-ce que tu fais ?» Encore faut-il que l'un et l'autre s'écoutent. C'est extraordinaire d'avoir des amis dans l'église, des frères et sœurs. « Eh, je te sens pas bien. Eh, qu'est-ce qui se passe ?» Et quand tu pries, c'est plus la même chose. La chute n'est que la partie immergée de l'iceberg. Et si parfois nous devons prier, si l'Église doit prier sans relâche, c'est parce qu'à l'origine, il y a un déclin dans la vie spirituelle. Ça, c'est le préventif. Ce serait tellement bien de ne pas avoir de curatif à faire, malheureusement. Excusez-moi, je panique. Le contexte, c'était la persécution. Et sans relâche, l'Église priait. C'est-à-dire, là, le texte nous dit clairement qu'ils étaient réunis dans un même lieu. Ils étaient réunis dans un même lieu, dans la maison de la mère de Marc. Ils ne s'étaient pas dit, « Oh, ben on va prier chez nous, c'est pareil. » Ils ne se disaient pas, « Oh, mais c'est pareil, là, c'est pas un problème, chez moi, on est tous unis par le même esprit. » Psaume 133, entre autres, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. L'attitude de l'Église primitive, dès qu'ils se convertissent, oh, clac, ils se mettent en noyau. Jésus qui dira, là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. On ne parle plus du tout. Alors, on me rétorquera, oui, mais Jésus dira qu'il faut, pour la prière, il faut rentrer dans sa chambre, etc. C'est vrai, les deux sont nécessaires. Les deux sont nécessaires. Et finalement, se réunir ensemble, c'est tout simplement matérialiser le corps de Christ et matérialiser une envie que les choses bougent. En bougeant moi-même, je matérialise mon envie que les choses bougent. C'est-à-dire, ça s'appelle, en quelque sorte, un acte de foi. Et leur acte de foi est tout simplement est encore plus pertinent parce que c'était un temps de persécution. Jacques venait de mourir, Pierre venait d'être emprisonné, et il ne faisait pas bon d'être chrétien à Jérusalem par ces temps-là. La plupart, d'ailleurs, s'étaient dispersés. Pourtant, eux, conscients de l'urgence, ils vont le faire. Ils vont le faire. Je conclurai. Juste quelques petits points. Les prières, elles montent de Dieu, elles montent de l'Église vers Dieu. Et notre Dieu reste et demeure sur son trône. Malgré les persécutions, malgré les déceptions, malgré les combats que l'Église primitive pouvait avoir, et lorsque l'on regarde de manière assez schématique le début du livre des Actes des Apôtres, on s'aperçoit qu'un chapitre, c'est extraordinaire. Le chapitre d'après, c'est terrible. Un chapitre, c'est extraordinaire. Le chapitre d'après, c'est terrible. Notre Dieu est sur son trône. Et la prière de l'Église monte vers Dieu. Le trône n'est pas vide. David dira que l'Éternel est dans son Saint-Temple, l'Éternel a son trône dans les cieux. Et quelles que soient les difficultés que l'on peut avoir, mon ami, ma sœur, mon frère, quelles que soient les difficultés que l'on peut avoir, sache une chose, c'est que ton Dieu est sur son trône et qu'il entend les prières. C'est que ton Dieu est sur son trône et qu'il entend eh bien, les prières qui montent vers lui. C'est une réalité. Et Pierre a été relâché, d'autres hommes et d'autres femmes seront relâchés. Des hommes et des femmes qui sont tombés entre les mains de l'ennemi. Peut-être es-tu tombé entre les mains de l'ennemi. Et sache une chose, c'est que Jésus a toute la possibilité, a tout le pouvoir pour te relâcher. Afin que tu puisses sortir de ce carcan qui t'oppresse. Afin que tu puisses sortir eh bien, de cette prison qui est là eh bien, et qui t'en sert. Jésus a la possibilité de te délivrer. Parce que Jésus est mort, mais il est ressuscité. Et aujourd'hui, il est assis à la droite du Père. Et il prie pour toi. Il a envoyé son esprit pour que eh bien, ses œuvres continuent à être accomplies. C'est une réalité. Dieu est sur son trône et il entend les prières de l'Église. Il entend les prières qui montent vers lui. C'est une réalité. Et quelle qu'en soit l'issue, il les entend et il change le mal en bien. Il change la malédiction en bénédiction. Il libère, il fait grâce, il change des cœurs, il change des vies. Et il a manifesté cette victoire sur la croix du calvaire. Hérode est vaincu. La fin de ce texte nous montre que Hérode va mourir d'une manière terrible, dévoré par des vers. Tout simplement, c'est l'image même eh bien, du fait qu'il est vaincu. Et quelles que soient les circonstances que tu as devant toi, sache qu'en Jésus, tu en seras vainqueur. Jésus, sur la croix du calvaire, est mort pour cela. Son sang a été versé pour cela. Et lorsque nous prions, nous ne repassons pas des difficultés, mais nous prions en pensant à l'œuvre de Jésus sur la croix. Nous prions en pensant et en focalisant notre foi sur ce que Jésus a accompli. Pierre, dans sa prison, dormait. C'est le début du miracle. De la même manière que Jésus, dans la tempête, dormait. De la même manière qu'Étienne, sous les pierres de ses bourreaux, de ses assaillants, dormait. Extraordinaire, ça. Paul et Silas, qui, en prison, chantent les louanges de Dieu. L'épreuve est une chose. Mais même au sein de ces difficultés-là, notre Dieu nous y accompagne. Toujours. Toujours. C'est une constante. Simplement, regardons à lui. Fixons nos regards sur lui. Et si nous persévérons, si nous continuons à lutter, si nous relevons les bras, si nous demandons la prière de l'Église pour certains sujets, alors ça bougera. Alors ça bougera. Dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos familles, dans nos attitudes. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Te prions, Seigneur, pour la grâce qu'il y a en toi. Nous te remercions pour l'Église, Seigneur, qui est ton corps, Seigneur, et qui est, Seigneur, eh bien, le lieu où tu fais des choses extraordinaires. Nous sommes, Seigneur mon Dieu, une partie intégrante, Seigneur, de ton œuvre. Nous sommes appelés, Seigneur, à être ton corps sur cette terre. Seigneur, alors tu nous fais du bien, Seigneur. Merci, Seigneur, de te servir de nous. Merci de te servir de nos prières. Merci de te servir, Seigneur, de tout ce que nous sommes, Seigneur, afin que ton œuvre avance et que des captifs soient libérés. Seigneur, c'est l'œuvre de la croix. C'est l'œuvre, Seigneur, que tu as accomplie sur le bois de la croix. Merci, Seigneur. Je te prie pour ceux et celles qui parmi nous sont en prison. Je te prie pour ceux et celles qui parmi nous, eh bien, sont aux prises avec des combats terribles, Seigneur. Eh bien, garde-les dans ta paix. Garde-les dans ta tranquillité. Seigneur, ceux qui sont captifs, Seigneur, mon Dieu, liés par l'ennemi de nos âmes, tu les délivres, Seigneur, d'une manière surnaturelle, parce que tu en es capable, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Voilà les annonces.